Mikes pastil.
Mikes pastil.
Oh, mikes qui se passe.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 23 janvier. On va faire un petit tour de l'actu un peu scientifique, climatique, on va parler pas mal d'intelligence artificielle aussi. Et puis on commence tout de suite avec quelques brèves piochées sur le très bon journal écologiste Reporter, où on apprend que le climat s'emballe du côté des pôles et notamment dans l'Arctique. Le climat s'emballe et donc du côté du pôle Nord, la région se rapproche d'un point de non-retour. Déjà en décembre dernier, c'était l'Agence d'observation atmosphérique et océanique états-unienne, la NOAA, qui avait alerté sur le fait que cette région qui entoure le pôle Nord, donc le cercle arctique, émettait désormais plus de CO2 et d'oxyde de carbone qu'elle n'en stockait. En cause notamment la multiplication des incendies et l'augmentation des températures dans la toundra. Eh bien, une étude vient d'être publiée ce 21 janvier dans la revue Nature, où des chercheurs issus d'une équipe internationale enfoncent le clou. On y apprend que plus de 30% de cette région est une source nette de CO2, donc c'est-à-dire qu'elle émet plus de CO2 qu'elle en absorbe. Les chercheurs ont établi cette première cartographie des puits et des sources de carbone. Donc les puits, c'est là où le carbone est fixé, plutôt grâce à la végétation, et les sources, c'est quand il est émis dans l'atmosphère. Et on voit que les régions de toundra sont maintenant les plus émettrices de carbone. Nous voulions dresser le tableau le plus actuel et le plus complet du carbone dans le Nord. Et pour ce faire, nous savions que nous devions tenir compte de l'empreinte carbone croissante des incendies dans la région, explique notamment Anna Virkala, qui est chercheuse à l'Initiative Permafrost Pathways de Woodwell Climate, et qui est donc l'auteur principal de cette étude. Bien que nous ayons constaté que de nombreux écosystèmes nordiques agissent encore comme des puits de dioxyde de carbone, donc des endroits où le CO2 est fixé, les incendies annulent désormais une grande partie de cette absorption nette et inversent même les tendances sur le long terme. Après la proposition de suppression de l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, puis de l'Agence Bio, l'offensive anti-écologique de la droite continue en France. Dans le cadre du projet de loi de finances, les sénateurs ont en effet voté ce 20 janvier deux amendements proposés par le gouvernement qui visent à réduire encore les crédits de la mission écologie. On est donc avec 745 millions d'euros de baisse proposée au mois de novembre dernier. Eh bien, Bayrou a ajouté 575 millions d'euros. Et ceci justifié par l'objectif de limiter le déficit public à 5,4% du PIB. Deux secteurs payent le prix fort de cette diminution d'1,3 milliard d'euros. 300 millions d'euros sont retirés sur les moyens dédiés à la transition énergétique du parc automobile et 200 millions d'euros sur le soutien aux énergies renouvelables. Tout cela est expliqué aussi parce que cela fait plusieurs mois que le Sénat, dominé par la frange droite de la politique française, multiplie les tentatives de recul environnementaux. Depuis septembre 2024, des sénateurs ont ainsi voté une proposition de loi de programmation énergétique moins disante sur les énergies renouvelables. Ils ont lancé une nouvelle donc PPL, toujours une proposition de loi de simplification du zéro artificialisation net. Et ils ont adopté en commission un autre projet de loi qui a pour but, lui, de sabrer les multiples normes agricoles et de réautoriser certains pesticides néonicotinoïdes. Enfin, ils prônent l'affaiblissement des pouvoirs de l'Office français de la biodiversité. On continue avec d'autres brèves sur le front écologiste et notamment la lutte contre l'aéroport. L'autoroute du côté de Toulouse avec le tribunal administratif donc de Toulouse qui continue de botter en touche après avoir annoncé la réouverture de l'instruction dans le dossier de la 69 au mois de décembre. Il a rejeté, je vous le disais ce mardi, la demande d'une dizaine d'associations écologistes pour suspendre ce chantier en urgence, et ce malgré, là, par exemple, la présence avérée du castor sur le secteur dont je vous ai parlé il y a deux jours. Le juge des référés a donc estimé que les effets de la poursuite du chantier resteront très limités, et ce jusqu'à ce que la justice se prononce définitivement sur le fond du dossier, soit à la mi-février. À cette occasion, l'autorisation environnementale pourrait quand même être annulée, ce qui pour le coup entraînerait l'arrêt immédiat du chantier de l'autoroute. On a l'impression qu'il se renvoie à la patate chaude. Personne ne veut prendre de décision dans ce dossier, explique, commente Gilles Garic, qui fait partie du collectif La Voie est libre, les opposants donc à cette autoroute. Le juge ne nous donne pas tort sur le fait que le chantier peut porter atteinte à l'environnement et aux espèces protégées. Là-dessus, il n'y a aucun doute au niveau législatif. Mais, regrette-t-il, le juge ne reconnaît pas le caractère urgent de cette suspension des travaux. C'était dans la journée de ce lundi, le 21 janvier, que 6 mises en demeure avaient été adressées en tout par la préfecture du Tarn au concessionnaire des travaux, donc à savoir l'entreprise Atosca, pour relever des irrégularités sur ce chantier de la 69. Il était notamment fait référence à des travaux de pompage non autorisés, à des manquements concernant des mesures compensatoires ou à une mauvaise gestion des eaux pluviales sur le chantier. D'ailleurs, Gilles Garic de La Voie est libre souligne qu'au total, on en est à 13 mises en demeure sur ce chantier. On ne sait plus trop quoi faire au niveau juridique. On a l'impression qu'Atosca fait tout ce qu'il veut et que malgré les mises en demeure, le chantier continue. Malgré donc le rejet de ce matin de la demande de suspension des travaux, Jean-Olivier, le président de l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, qui est une des associations à l'origine de ce référé suspension, trouve quand même motif à satisfaction dans ce jugement. Il trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Il explique que le tribunal acte le fait que le jugement sur le fond doit être rendu dans les prochaines semaines. Et c'est même comme cela que le juge justifie son choix de ne pas suspendre les travaux. L'étau se resserre et il est probable qu'on obtienne une annulation du chantier à la mi-février. Note ce docteur en écologie, donc toujours optimiste quant à la lutte contre cette autoroute. La poursuite des travaux entre-temps donc n'entame pas les espoirs des opposants à la 69. Ils restent confiants en un possible arrêt définitif du chantier et possiblement d'ailleurs même ensuite une remise en état des terres qui auront été dévastées, même si les arbres coupés ça va être compliqué. L'audience sur la demande d'annulation de cette autorisation environnementale donc, aura lieu au tribunal administratif de Toulouse et ça se fera entre le 17 et le 28 février. Et on termine cette boucle sur l'environnement et les décisions juridiques avec des associations là aussi qui interpellent l'Europe pour agir sur les empoisonnements au PFAS, PFAS, donc les polluants éternels. Il est temps de mettre un terme à la pire pollution de l'histoire de l'humanité. C'est l'objet d'une lettre qui a été adressée par une centaine d'ONG à la Commission européenne hier, le 22 janvier. La contamination donc, dont il est question, je vous le disais, c'est celle des polluants éternels. Dans les organisations, on retrouve France Nature Environnement, Génération Future ou Foodwatch. Et ils ont donc pris la plume collectivement en réaction à de nouvelles révélations d'un consortium de médias sur le coût de la pollution au PFAS et aussi sur le lobbying qui est mené par l'industrie chimique à cet égard. Les substances toxiques dont il est question se sont répandues dans tous les milieux jusqu'à contaminer massivement l'eau du robinet. Chaque citoyen européen, en particulier les adolescents, les jeunes enfants, les femmes enceintes et par conséquent même les bébés à naître, tous présentent aujourd'hui des niveaux alarmants de PFAS dans leur corps, alertent les associations. Pour sortir donc de cet empoisonnement, elles appellent les institutions européennes à réduire au minimum, à rendre public et à consigner dans un procès-verbal complet toutes les réunions avec les industriels, ces industriels qui tentent d'obtenir des dérogations pour continuer à utiliser les polluants éternels dans leur processus. En clair, l'idée c'est de limiter donc par tous les moyens l'intense lobbying de ces fabricants. Les associations appellent également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à empêcher la dilution annoncée du projet européen de restriction des PFAS, qui est donc en discussion en ce moment, et il lui demande de renforcer au contraire les réglementations sur les pesticides, les biocides et les produits pharmaceutiques pour s'attaquer donc à l'ensemble des sources de pollution. Et si on descend au niveau national, en France, la riposte s'organise aussi, puisque les députés écologistes comptent profiter de leur journée réservée à l'Assemblée nationale, ça sera le 20 février prochain, pour faire avancer leur proposition de loi sur la lutte contre les polluants éternels.
Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on aurait déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Une nouvelle qui m'a un petit peu étonné, venant en tout cas d'Elisabeth Borne, qui est maintenant ministre de l'Éducation. Eh bien, elle a déclaré ce matin sur France Inter que l'éducation à la vie affective et sexuelle était indispensable. Elle a déclaré cela alors que ce programme, qui doit être mis en œuvre dans tous les établissements scolaires à la prochaine rentrée, a connu plusieurs contretemps ces dernières années. Le programme donc, d'éducation à la vie affective et sexuelle doit entrer en vigueur normalement en septembre et il prévoit 3 séances par an. Le texte donc, qui constitue ce programme devait initialement être appliqué pour la dernière rentrée. Il a été repoussé, il sera donc finalement examiné mercredi prochain par le Conseil supérieur de l'éducation. C'est une instance qui regroupe notamment les représentants des profs et des parents d'élèves. Ce texte, enfin cette discussion et ce conseil doivent permettre de relancer dans les écoles, les collèges et les lycées le principe donc d'une éducation à la vie affective et sexuelle. Théoriquement, c'est déjà imposé par la loi depuis 2001, mais dans les faits, c'est très très peu enseigné. L'élaboration de ce programme a fait l'objet d'une fronde de la part d'associations conservatrices, puis par des responsables politiques qui dénoncent notamment la présence d'une soi-disant théorie du genre. C'est à partir du lycée qu'on évoque cette notion d'identité de genre, d'ailleurs, uniquement, a précisé Madame Borne sur France Inter. Elle a expliqué la logique d'évoquer un concept présent dans le code pénal. Les documents qui ont été consultés jusque-là par l'AFP, d'ailleurs, ne font pas mention du terme précis d'identité de genre avant la classe de seconde. C'est la notion seule du genre qui est malgré tout désormais différencié du sexe biologique. Et ça, c'est évoqué pour les enfants à partir de la classe de la 5e. Et je le rappelle, c'est dans le code pénal. Plus largement, donc, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a souligné que ces questions de sexualité n'étaient pas évoquées avant le collège. Seuls les sujets liés à la vie affective et relationnelle, donc notamment les questions de consentement et de rapport au corps, peut-être pour détecter aussi d'éventuelles violences intrafamiliales, tout ça s'est abordé, lui, bien dès l'école primaire. C'est un programme, dit-elle, qui est très attentif à apporter les bonnes informations en fonction de l'âge de l'élève, qui doit permettre de transmettre des valeurs très importantes de respect de soi, de respect de l'autre, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Au sein du précédent gouvernement, donc le gouvernement Barnier, le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, avait lui exprimé son rejet du programme en l'état, puis il avait finalement été recadré par sa ministre de tutelle, Anne Genetet. Bon, aucun des deux n'a par la suite été reconduit dans l'actuel gouvernement de François Bayrou. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette question d'éducation à la vie affective et sexuelle, je vous recommande d'aller écouter dans les podcasts, notamment l'émission faite avec la Sexomobile, une association active sur nos Cévennes et qui justement est parfois sollicitée dans le cadre de ces éducations envers les jeunes. Voilà, c'est sur les podcasts qu'on a mis en ligne liés à la journée dernière du 17 janvier. Au niveau mondial, c'est l'Union africaine qui s'est dite consternée suite à la décision du président américain Donald Trump, qui a pris ses fonctions, de retirer les États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'Union africaine, suite à ce communiqué, s'est dit quand même espérer qu'il reconsidérera sa décision. C'est un communiqué qui a été publié hier. Son président s'appelle Moussa Faki Mahamat, donc le président de la commission de l'Union africaine. Il s'est dit donc consterné d'apprendre l'annonce du gouvernement américain de se retirer de l'OMS. Aujourd'hui, dit-il, plus que jamais, le monde dépend de l'OMS pour s'acquitter de son mandat visant à assurer la sécurité de la santé publique mondiale en tant que bien commun partagé. Il espère que le gouvernement américain reconsidérera sa décision de se retirer de cette organisation mondiale clé dont il est le membre fondateur, rappelle-t-il. La décision des États-Unis de se retirer de l'OMS inquiète sur le continent africain, actuellement confronté à plusieurs épidémies comme le Mpox et le virus de Marburg. En Afrique, lit-on toujours dans ce communiqué, les États-Unis ont été l'un des premiers et forts partisans de la création de l'Africa CDC. C'est l'agence technique de l'Union africaine pour les urgences de santé publique qui travaille donc avec l'OMS et avec les membres mondiaux de l'OMS pour détecter, préparer, répondre et se remettre des pandémies. Le décret qui vient d'être signé par le président américain, parmi une foultitude d'autres décrets tous aussi catastrophiques les uns que les autres, eh bien, il a été signé donc par Donald Trump, justifié par l'écart des contributions financières américaines et chinoises. Ce décret a fait réagir à travers le monde, notamment du côté de l'Union européenne qui se dit inquiète, la Chine qui affirme que le rôle de l'OMS doit être renforcé et non pas affaibli. Les États-Unis avaient quand même déjà entamé des démarches pour quitter l'OMS au cours du premier mandat de Donald Trump en 2020. Ils sont le principal donateur et partenaire de cette organisation qui émane de l'ONU et qui est basée à Genève. En se retirant donc de l'OMS, les États-Unis vont perdre un accès privilégié à des données de surveillance épidémique importante, c'est ce qu'ont rappelé aussi plusieurs experts, ce qui pourrait nuire notamment aux capacités de surveillance et de prévention des menaces sanitaires venues de l'étranger. Ce retrait inquiète donc d'autant plus qu'il intervient au moment où la forte circulation du virus de la grippe aviaire aux États-Unis accentue les craintes d'une prochaine pandémie. Le pays a recensé notamment au début de ce mois de janvier un premier décès humain lié au virus H5N1.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Plus d'OMS, mais encore et toujours plus d'intelligence artificielle pour les États-Unis et donc, a fortiori, pour le reste du monde, avec le projet Stargate. C'est OpenAI et SoftBank qui promettent d'investir 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle et tentent ainsi de damer le pion au monopole pour l'instant de Elon Musk. Ça a été annoncé ce mardi à la Maison Blanche, c'est donc le nom du projet, Stargate, comme le film, et tout le monde a fait des parallèles avec les projets Manhattan, le projet qui avait permis l'élaboration de la bombe nucléaire dans les années 50, ou le programme Apollo, celui qui a envoyé des astronautes sur la Lune. Un projet donc pharaonique et colossal qui vise à investir 500 milliards de dollars pour construire donc aux États-Unis d'immenses data centers, des centres de données entièrement dédiés à l'intelligence artificielle générative. Contrairement à ses prédécesseurs, ce projet ne sera pas financé par de l'argent public, mais bien par des fonds privés. Pour l'instant, l'origine reste incertaine. Ce projet, c'est donc une co-entreprise qui va le porter. Principalement, je vous l'ai dit, détenu par OpenAI et SoftBank, donc une banque et un programmateur d'intelligence artificielle. Donc OpenAI, c'est le créateur de ChatGPT qui s'occupera de la partie opérationnelle. SoftBank, le conglomérat japonais de la gestion financière, et aussi Oracle et le fonds émirati MGX, eux, rajouteront l'argent. S'ajouteront ensuite certainement Nvidia, Microsoft et Arm comme partenaires technologiques pour donc ce projet Stargate. En tout, c'est 20 data centers qui sont envisagés là-dedans, et ça fait plusieurs mois que des rumeurs circulent sur les ambitions de Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, et qui le répète régulièrement. Le développement d'une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui peut apprendre tout seul, nécessitera des investissements colossaux qui se chiffrent en milliers de milliards de dollars. L'an passé, il avait déjà discuté avec de nombreux partenaires potentiels. Pour le moment, donc, sa société entraîne et fait tourner ses modèles d'IA uniquement sur le cloud Azure de Microsoft, mais elle estime ne pas disposer de suffisamment de puissance de calcul. Et à l'automne, le site The Information révélait ainsi qu'un accord avait été conclu avec Oracle pour utiliser un data center qui est en construction au Texas. Ça sera donc le premier data center du projet Stargate. Et l'entreprise ambitionne d'ici 2029 de construire donc une vingtaine de ces sites. Ils n'ont pas d'argent, c'est ce qu'a immédiatement répliqué Elon Musk, qui est donc désormais le rival d'OpenAI. Et il appuie cette assertion sur le fait que les quatre partenaires assurent pouvoir déployer 100 milliards de dollars immédiatement. Pour lui, c'est du bluff. Et donc, ça a été démenti par Sam Altman d'OpenAI. Reste en tout cas que le mystère demeure encore sur la capacité financière réelle de Stargate. Toujours selon The Information, OpenAI et SoftBank doivent contribuer à hauteur de 19 milliards pour l'investissement initial. On est encore loin des milliers de milliards. Et si le groupe japonais dispose bien de cette somme, hein, SoftBank, ça représente quand même les deux tiers de sa trésorerie. Donc c'est un investissement dangereux. Pour OpenAI, donc la start-up américaine, pour l'instant, elle n'a réussi à lever que 22 milliards de dollars, dont une grande partie a déjà financé ses lourdes pertes. Par ailleurs, plus de la moitié de cette enveloppe des 100 milliards doit et censé provenir d'investisseurs extérieurs et d'endettement, mais pour l'instant, aucune précision n'a encore été apportée. Donc, on est sur un effet d'annonce, et il ne s'agit là donc que de la première tranche d'investissement, puisque je vous l'ai dit, sur les premières 4 ans, le projet prévoit d'investir 400 milliards de plus. Alors, d'où viendra l'argent ? Une partie pourrait provenir de grands investisseurs du Moyen-Orient, comme le géant Emirati G42, avec lequel Sam Altman aurait déjà discuté, ou alors le fonds souverain saoudien, qui avait déjà financé le Vision Fund de SoftBank. Mais les États-Unis viennent justement de présenter une réglementation qui vise à limiter l'accès de ces deux pays à l'IA. Et avec Elon Musk dans le gouvernement, il risque d'essayer de verrouiller justement la concurrence. Alors, les États-Unis accepteront-ils que ces pays, Qatari et Emirati, financent un investissement aussi stratégique ? L'annonce de ce mardi ressemble donc plus à un effet d'annonce qu'à une véritable feuille de route et qui s'apparente aussi à un coup politique, peut-être pour s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump, qui se retrouve donc ainsi associé à un projet lancé depuis plusieurs mois.
L'éco-dépisteur 209 est un robot policier entièrement autonome. Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre, mais ce n'est qu'un commencement.
Veuillez lâcher votre arme. Vous êtes en infraction caractérisée de l'article 113, chapitre 9 du Code pénal.
Petit extrait du film d'anticipation Robocop, qui avait tapé assez juste, en tout cas sur le côté de l'Europe, où on prend la voie gentiment de ces dystopies. Toujours donc dans l'intelligence artificielle, c'est la France qui ouvre la voie à la surveillance de masse en Europe. Reconnaissance faciale en temps réel, interprétation des émotions, catégorisation des pensées religieuses, sexuelles et politiques. La France milite et a activement milité donc pour que ces pratiques soient permises par le AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui est justement en cours de finalisation. C'est une enquête des médias d'investigation Disclose et Investigate Europe qui a permis d'appuyer cet argumentaire avec des documents confidentiels à l'appui. Et le résumé en est ici fait sur le site La Quadrature du Net. Imaginez donc que vous participiez par exemple à une manifestation pour le climat, que vous portiez un badge ou que vous brandissiez une pancarte, eh bien une caméra intelligente donc peut détecter ces signes et les lire, enregistrer votre visage et transmettre les images à la police pour les comparer aux fichiers des personnes recherchées pour des crimes environnementaux. Bon, si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas dans ces fichiers, eh bien les données seront malgré tout stockées pour une prochaine utilisation. Ces scènes donc, qui semblent sorties d'un film de science-fiction pourrait donc bien devenir réalité dans les prochaines semaines. En effet, c'est ce 2 février que les articles les plus controversés de cet IA Act entreront en vigueur. Et ces articles concernent les risques inacceptables du règlement européen sur l'intelligence artificielle et dans leur sillage donc une myriade de portes ouvertes pour contrôler encore plus l'espace public. Ce texte était pourtant censé encadrer justement l'usage de l'intelligence artificielle contre les menaces pour les droits fondamentaux et les libertés publiques en Europe. Ça fait 2 ans que des négociations secrètes ont lieu entre les États européens. Et bien ce cadre justement d'encadrement n'a pas survécu, notamment au coup de boutoir de la France, qui a réussi à obtenir des exemptions majeures en imposant ce thème de la sécurité nationale. On va détailler un petit peu tout cela. En tout cas, c'est une analyse d'une centaine de documents confidentiels européens sur ce AI Act qui a été obtenu par Disclose Investigate Europe, qui montre le rôle de la France là-dedans. Ils ont pu lire des comptes rendus de négociations qui expliquent comment Paris est parvenu à ouvrir une brèche pour autoriser la surveillance de masse dans l'espace public. Ce lobbying a commencé fin 2022, par exemple le 18 novembre, au cours d'une réunion organisée à huis clos avec ses homologues européens. Le représentant français prévient: l'exclusion des questions de sécurité et de défense, donc du cadre du règlement, doit être maintenue à tout prix. La France considère que l'ordre public fait partie de la sécurité nationale. C'est pourquoi elle a réclamé que tous les aspects du maintien de l'ordre soient exclus du règlement. Elle est le seul pays à avoir demandé cette exclusion totale. Des manifestants qui sont accusés de troubler l'ordre public deviennent donc ainsi les cibles légales de la reconnaissance faciale, puisque vous l'avez compris, il y a un glissement entre l'ordre public et la sécurité nationale. Il était d'abord assez isolé dans cette position. Le gouvernement français n'a pas ménagé ses efforts pour persuader d'autres homologues européens du bien fondé de sa demande, avec en principal prétexte l'organisation des Jeux Olympiques. En septembre 2022, l'ambassadeur adjoint français, par exemple, s'est entretenu avec un des rapporteurs du texte au Parlement européen, avec toujours comme objectif de le convaincre de la nécessité d'autoriser la reconnaissance faciale pour le maintien de l'ordre. Le diplomate français était nerveux, il y avait de la tension dans la pièce, témoigne la source. Le ton est monté, le représentant français campait sur ses positions au prétexte que la France organisait les Jeux Olympiques quelques mois plus tard. Et oui, car avant les JO, en France, l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique par la police n'était autorisée que dans de très rares cas. C'est l'événement sportif qui a donné l'occasion au gouvernement de faire adopter une loi validant l'expérimentation jusqu'en mars 2025. Donc dans 2 mois, c'est censé être fini. Il n'avait à l'époque, pour le coup, pas réussi à convaincre les parlementaires d'y inclure la reconnaissance faciale. Voilà, de très nombreux exemples comme ça, documentés de lobbying, sont référencés dans cette étude. Et finalement, les efforts de la France ont été récompensés. Par exemple, dans l'article 2.3 de cet AI Act, qui est donc prend en vigueur, je le rappelle, ce 2 février, selon une organisation de défense des droits des citoyens européens, le DRI, ce principe, donc l'article 2.3, permet d'introduire des systèmes de surveillance biométrique de masse qui risquent d'affecter lourdement nos libertés de mouvement, de réunion, d'expression, ainsi que notre vie privée. Un autre article important, l'article 46, alinéa 2 du règlement européen, précise que dans une situation d'urgence dûment justifiée pour des raisons exceptionnelles de sécurité publique, les autorités répressives, donc la police, peuvent utiliser un service d'IA à haut risque spécifique, et ce, sans autorisation. Concrètement, par exemple, si un État estime que sa sécurité est en jeu, et là, évidemment, toute latitude est donnée à la notion de sécurité, c'est comme pour le terrorisme, hein. Concrètement, donc, si un État estime que sa sécurité est en jeu, il pourra aller jusqu'à rechercher une personne sur la base de la race, les opinions politiques, l'affiliation à une organisation syndicale, les convictions religieuses ou philosophiques, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, et tout cela donc grâce à la science algorithmique. Cette surveillance serait rendue possible grâce notamment à la détection, par exemple, du port d'un insigne ou d'un accessoire, donc on revient à ces fameux badges, évidemment la barbe et le voile pour les méchants terroristes islamistes, mais cela est valable lorsque cette personne est impliquée dans l'extrémisme violent ou qu'elle présente un risque terroriste. Donc un badge d'un mouvement écolo classé, extrémiste et violent, pourrait motiver l'allumage des caméras qui sont dopées à l'intelligence artificielle. Il est glaçant de voir l'Union européenne laisser ses polices recourir à ces systèmes pour tenter de détecter l'orientation sexuelle, s'indigne l'auteur de Technopolis, Félix Tréguet, qui est aussi membre de la Quadrature du Net, qui est son porte-parole d'ailleurs. C'est aussi ça, dit-il, l'intelligence artificielle, le retour des théories naturalisantes, des pseudosciences et des catégories arbitraires, désormais inscrites dans de puissants systèmes automatisés pour mettre en œuvre la violence d'État. Au cours de ces discussions, donc sur ce règlement européen concernant l'intelligence artificielle, l'AI Act, la France a mis en avant 2 autres lignes rouges d'ailleurs qu'elle refusait de voir, justement, enfin des choses sur lesquelles elle ne voulait aucun encadrement. Paris en effet demandait à ce que les prisons et les zones de contrôle aux frontières soient exclues de la définition de l'espace public. C'est pas mal. Ça c'était dans une réunion de novembre 2023 qu'on a pu lire ça dans le procès verbal. Et là encore, en côté d'autres pays comme la Grèce, elle a obtenu gain de cause. Dans quelques semaines, les États membres pourront donc, dans ce cas-là, par exemple, déployer des systèmes de reconnaissance émotionnelle à leur porte. Ce sont des logiciels qui sont reliés à une caméra et qui peuvent être utilisés, par exemple, lors d'interrogatoires de personnes exilées. L'objectif, par exemple, c'est de chercher à évaluer avec plus ou moins de fiabilité leur degré de nervosité ou d'anxiété pour savoir si elles mentent sur leur pays d'origine, sur leur âge ou sur la raison de leur départ. Ce qui est insidieux dans l'utilisation de l'intelligence artificielle par la police et le contrôle des migrations, c'est que la plupart du temps, les gens ne sauront pas qu'ils ont été surveillés par ces systèmes, déplore Sarah Chander, qui est cofondatrice d'Equinox, une ONG qui lutte contre la discrimination raciale en Europe. Derrière l'activisme de la France, on trouve enfin la volonté de laisser les coups des franches aux industriels européens de l'intelligence artificielle. Car oui, à chaque fois, ces technologies de surveillance ou d'armement, c'est aussi des grosses industries du business et dans lesquelles on est assez en pointe au niveau mondial. En tout cas, ça a été sous-entendu assez explicitement, notamment par le représentant de Paris au cours d'une réunion du 15 novembre 2023, où il évoquait le risque que les entreprises délocalisent leurs activités dans des régions où les droits fondamentaux ne jouent pas de rôle. Un argument qui a d'ailleurs été repris par le président Emmanuel Macron un mois plus tard. Selon lui, en régulant beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que nos grands compétiteurs, on régulera des choses qu'on ne produira plus ou qu'on n'inventera pas. Donc la notion de production est quand même rentrée très fort aussi dans ce lobbying pour justement faire péter tous les verrous de sécurité sur l'intelligence artificielle. À Bruxelles, enfin, beaucoup interprètent ces prises de position comme un soutien à peine voilé justement à un fleuron de la Startup Nation, à savoir Mistral AI. C'est une société française d'intelligence artificielle qui compte parmi ses actionnaires, par exemple, Cédric O. Vous vous rappelez, celui qui a juste une lettre comme nom de famille, un proche du président de la République, ancien secrétaire d'État au numérique, et c'est aussi lui qui est chargé des relations publiques de l'entreprise. Et un des fondateurs de Mistral, confié il y a tout juste un an, dans sa forme finale, l'AI Act est tout à fait gérable pour nous. Ils sont donc plutôt satisfaits du résultat. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles et ces informations non générées par ChatGPT qu'on se laisse. Et pour rester dans la thématique, un peu de musique avec un morceau de l'album Zippo contre les robots, qui a déjà 6 ans et qui s'appelle In Mars We Trust. A très bientôt sur les ondes de Radio Escapade, à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Allez ouais, prends ton ticket mec, c'est pas compliqué. Le nouveau monde il sera réservé qu'aux patrons friqués. T'sais, pour eux ta planète elle est baisée donc ils font du bif. Ces pervers voient leur terre mère comme une mif. Allez embarquer dans SpaceX, allez. Faites vite, allez vous emboîter dans le Tetris. Qui s'esquive de cette vie. Vous savez pardon mais nous on est riches donc exit. Si vous avez pas de rond, vous pourrez le suivre sur Netflix. Il est temps de mettre le cap sur la planète rouge. Le conducteur de la navette a bu 2-3 Red Bull. Wesh on est chaud patate pour explorer le cosmos. Sur Terre c'est trop tard. On va pas restaurer l'osmose. Ici on stagne entre tristesse, colère. Envie de faire du tire-fesse dans le système solaire. Donc faites la queue mais si vous payez pas l'ISF, y'a quand même peu de chances que vous visitiez l'ISS. Ils s'imaginent déjà seuls sur Mars avec Matt Damon de casque à la bonne surface pour construire des malls high-tech avec verdure inspirée des mondes Star Trek gonflés d'air pur. Maintenant vous êtes informés que l'homme est trop balèze. On vient pour terraformer toutes les exoplanètes. Si s'il y aura des boutiques et des baraques frites, entrons dans l'ère du capitalisme galactique. On arrive main dans les poches de combis bien métalliques. On a des valises, on s'en moque. On a des chiens mécaniques qui les portent. Et puis des robots qui escortent la vie des familles sous l'exomile qui débarquent. Mec ici c'est magique, regarde la terre qui s'éloigne dans le hublot. Que ceux qui restent se massacrent en huis clos. Et si t'as peur, une fois que tu es en orbite, dessine un cœur en faisant de la buée dans le cockpit.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, oh.
mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.